Santé.
Santé. Santé.
Santé.
C'est bon pour la santé.
Manger sainement.
La méditation. Échanger avec les autres.
C'est bon pour la santé.
Respecter mon rythme à moi.
Le bénévolat.
C'est bon pour la santé.
On est de bien meilleure humeur.
J'adore cuisiner pour moi, pour mes enfants.
J'ai mille fois plus d'énergie que j'en avais avant.
Pas trop de sucre, pas trop de sel, pas trop de gras. Faut pas virer fou.
C'est meilleur pour la santé, oui.
Bon vendredi, la dernière de la semaine. J'espère que ça met un peu de baume sur votre cœur et que ça vous fait du bien. En tout cas, du moins, je le souhaite. Marianne Paquette au micro pour vous accompagner au cours des 30 prochaines minutes. L'émission C'est bon pour la santé sur Canal M. Jusqu'à la fin du mois de décembre, l'organisme Partenariat pour un Canada sans drogue tient sa troisième campagne nationale de récupération de médicaments périmés ou encore des médicaments qui ne seraient pas utilisés. Tout ça dans le but d'éviter qu'ils ne servent à la consommation de nos adolescents. Hein. On sait, les drogues, en fait, les médicaments qu'on trouve dans notre pharmacie peuvent devenir des drogues facilement accessibles pour nos adolescents. C'est une initiative qui a pour thème « Ne laissez pas vos médicaments devenir des drogues de rue ». Et j'en parlerai tout à l'heure avec Marc Paris, directeur général du Partenariat pour un Canada sans drogue. Et aussi, ça semble pas toujours évident d'être parent. On peut avoir de nombreuses questions, des préoccupations aussi, à savoir, est-ce que je suis un bon parent? Il y a aussi parfois la pression de notre entourage, la pression de la société qui nous fait douter. Puis en même temps, comment on peut répondre à ça? C'est quoi un bon père? C'est quoi une bonne mère? Ces temps-ci, on entend souvent l'expression « les habiletés parentales ». Qu'est-ce que ça signifie au juste? En quoi ça peut nous aider? En quoi ça peut nous faire réfléchir sur nos comportements de parents? J'en parle à l'instant avec Julie Brousseau, psychologue spécialisée en développement de l'enfant et collaboratrice au contenu pour... Julie Brousseau, bonjour.
Oui, bonjour.
C'est une vaste question, hein, celle, c'est quoi un bon père, c'est quoi une bonne mère?
Oui, absolument. Et il y a différentes définitions selon les époques, je vous dirais. Hein? Ah, oui. Les habiletés parentales, c'est très relié au contexte culturel, au contexte social et ce qu'on valorise comme société. Les habiletés parentales, en général, de quoi on parle, c'est vraiment les comportements, la relation qu'on a avec notre enfant, les attitudes, les valeurs, les croyances, tout ce qui fait qu'on est en relation avec notre enfant puis qui nous aide à se conduire, dans le fond, à se comporter puis à prodiguer les soins que l'enfant a besoin. Hein, dans le fond, être parent, c'est répondre aux besoins de notre enfant, que ce soit à la fois les besoins physiques, hein, le nourrir, loger, tous les aspects là, de sécurité, de santé aussi physique, les besoins affectifs, hein, répondre à la détresse de l'enfant, le sécuriser, puis les besoins d'apprentissage, donc la stimulation qu'il a besoin pour apprendre, pour développer son langage, son développement cognitif, son développement émotionnel.
Julie, vous avez parlé de ce rapport-là avec l'époque. On n'était pas un bon parent aujourd'hui comme il y a 50 ans, par exemple, mais j'ai l'impression que les habiletés parentales, c'est aussi le bagage que l'on a comme être humain, comme adulte, donc un peu l'enfant qu'on a été, l'éducation qu'on a reçue.
Oui, absolument, hein? Parce que dans le fond, pour être parent, on base nos actions sur nos connaissances, hein? comme personne, comme adulte, la confiance qu'on a de bien soutenir le développement de notre enfant, les attitudes, les valeurs, nos comportements, et notre propre expérience qu'on a, comme on a eu comme enfant, là, avec nos propres parents. Mm-hmm. Donc, le contexte social aussi joue là-dedans. Donc, il y a plusieurs influences, à la fois du côté de l'enfant aussi, hein, qui vient nous challenger, ouais, ou vient nous solliciter, à la fois au niveau du parent, puis au niveau du contexte aussi. Il y a beaucoup de facteurs en jeu.
Mais Julie, j'ai l'impression que le terme « habileté parentale », là, c'est assez récent. On ne parlait pas de ça il y a 20-30 ans.
Non, c'est assez récent, absolument. Je voudrais peut-être depuis une trentaine d'années. La recherche aussi sur le sujet est encore en cours, puis on comprend de plus en mieux quels sont les facteurs impliqués. Puis c'est quoi aussi d'être un bon parent, hein, les habiletés parentales? Mmh. Des fois, on se pose la question, c'est quoi la différence avec la compétence parentale?
Oui.
Tu sais, les habiletés parentales, c'est les aptitudes, les capacités qu'on a de faire les choses, hein, avec notre enfant. Puis la compétence parentale, si je regarde, il y a beaucoup de définitions, là, mais si j'en choisis une là, qui est quand même partagée, c'est de faire les bonnes choses. Donc, c'est pas juste de faire les choses, mais c'est vraiment face au jugement externe des autres. Donc, la compétence parentale est différente selon les époques. Hein. C'est la reconnaissance sociale qu'on est compétent. Fait qu'à une certaine époque, être un bon parent, peut-être que ce qu'on demandait à une bonne mère était différent d'actuellement. Hein? Je pense oui. que l'encadrement, où il y avait des façons différentes d'élever les enfants. Avant, la fessée,
oui,
c'était une façon
oui.
acceptable. Maintenant, on sait que c'est plus acceptable. D'être un bon parent, c'est pas donner la fessée là maintenant. Fait que c'est vraiment très, très... différent dans ce sens-là, là, très contextuel.
Donc, juste pour être certaine de bien comprendre, Julie, la compétence serait plus dans le comportement, dans les agissements?
Non, mais beaucoup dans la reconnaissance de c'est quoi être compétent. Donc, une habileté parentale, il y en a plusieurs, comme on disait. Si je vous dis les trois dimensions peut-être principales qu'on retrouve beaucoup là, dans les écrits sur le sujet, dans l'expérience des professionnels, on parle beaucoup de sensibilité parentale. Hein? Être parent, c'est décoder les besoins de notre enfant et y répondre adéquatement. Hein? Quand notre petit bébé pleure, est-ce qu'il a faim, est-ce qu'il a froid, est-ce qu'il a besoin d'être pris dans les bras? Donc, vraiment bien décoder ça puis y répondre de façon chaleureuse. Ça, c'est une dimension importante. L'encadrement, qui est important aussi, donc mettre des limites au comportement de l'enfant, le protéger. Et l'autre fonction aussi, l'autre dimension qui est des fois un peu de la littérature, c'est encourager l'autonomie de notre enfant, c'est un peu l'autodétermination. Donc, c'est ces dimensions-là. Ça peut varier, mais quand on dit on est compétent, c'est que selon les époques, selon ce qu'on pense que les enfants ont besoin, hein, quand de plus en plus on a des connaissances sur le développement de l'enfant, puis on sait maintenant qu'un parent doit être sensible, doit être encadrant, doit valoriser l'autonomie, parce qu'on sait que ces enfants qui ont reçu ce type de parentage-là vont bien se développer plus tard.
Ouais.
Donc, c'est ça la compétence, c'est comment on détermine quels sont les pour être compétents.
Oui. Des fois, on se demande si être parent, c'est quelque chose qui s'apprend ou c'est plutôt inné. Est-ce que vous avez une idée là-dessus, Julie Brousseau?
Oui, ben écoutez, oui, ça s'apprend. Ça s'apprend. C'est sûr qu'il y a des facteurs à la base. Hein. Vous parliez tantôt du bagage qu'on a comme parent. Fait qu'il y a comme une expérience qu'on a eue avec nos propres parents. On arrive avec ça. On arrive avec un bagage de connaissances. On arrive avec des croyances aussi qui sont différentes selon les cultures, selon notre milieu économique, socio-économique, selon où on habite et tout. Mais il y a des choses qui s'apprennent. Hein. Je pense que quand on arrive avec un premier bébé, il y a personne qui a le mode d'emploi. Puis oui, il faut se donner la chance. Vous disiez tantôt en ouverture que c'est exigeant, on sent beaucoup de pression comme parent. C'est normal quand on a un enfant de ne pas tout savoir. On apprend en interagissant avec notre enfant parce que même quand on a plusieurs enfants, je dirais que chacun est différent. Fait que avec le premier et le deuxième, ça peut être différent parce que c'est pas le même enfant. Il y a beaucoup de choses qu'on apprend avec l'expérience.
Ce que je comprends aussi, Julie, en vous parlant, c'est que ces habiletés parentales-là se forment plus, bon, par le bagage, par les expériences, par les époques, plus que par le genre. C'est-à-dire que l'on soit un homme ou une femme, ça fait pas grande différence.
Bien, c'est sûr qu'il y a de plus en plus d'études là, qui analysent ça. Hein? C'est quoi la différence entre un papa et une maman? Ce qu'on sait, c'est qu'en général, les parents, que ce soit père ou mère, ont les mêmes compétences. Hein? Le papa est aussi capable, aussi quand on évalue, là, de prendre soin, aussi capable que la mère de prendre soin de l'enfant. Donc, il y a beaucoup plus de similitudes entre les pères et les mères en termes de parentage que de différence. Ceci dit, je pense qu'on a quand même, des tendances naturelles. Ce qu'on voit souvent, c'est que la mère va être beaucoup plus impliquée en termes de soins à l'enfant, de réconfort. La mère va beaucoup avoir un rôle souvent de vigile des enfants qui va défendre.
L'aspect de sécurité,
l'aspect des premiers soins, donc beaucoup impliqué dans la première année de vie de l'enfant. Le père va souvent peut-être moins se sentir nécessaire dans la première année de vie, ce qui n'est pas vrai, mais il va beaucoup se sentir plus interpellé quand l'enfant commence plus à parler, à bouger, donc vers un an, puis là, on voit vraiment le père sentir vraiment une place là, plus grande, puis le rôle du père est extrêmement important, il est complémentaire à celui de la mère, pour vraiment développer, on sait vraiment que l'important, le père développe beaucoup les aspects moteurs de l'enfant, les habiletés sociales, les enfants qui ont des pères très impliqués, présents, ont une meilleure adaptation scolaire aussi. Fait que c'est un rôle important. Les deux sont aussi compétents, mais il y a quand même des variables, là, des différences. Un peu.
Et c'est beau d'entendre aussi que ces rôles-là sont complémentaires.
Absolument. Ils sont complémentaires. Et ce qu'on sait aussi, c'est que le papa, vous savez, on parle beaucoup d'attachement. Je ne sais pas si c'est un terme. On parle vraiment du lien d'attachement. On parle souvent avec la première adulte significative, qui est souvent la maman qui est à cause, bon, un peu qu'elle le nourrit, et souvent la personne la plus proche au début. le papa, il y a beaucoup d'études maintenant qui parlent de relation d'activation. Donc, pas la relation d'attachement, mais d'activation. Le père, ce qui amène, c'est d'aider le bébé à décoller de la maman, mm-hmm. puis d'aller explorer. Donc, le père est important pour venir stimuler le bébé à explorer, puis qu'il prend plus de risques. Mm. Fait que c'est vraiment des rôles complémentaires dans ce sens-là.
Julie, on entend souvent parler aussi ces temps-ci de l'hyper-parent. Moi, je le comprends comme le parent qui est peut-être trop impliqué, en tout cas du moins très impliqué, l'organisation de fêtes dans les loisirs, qui suit son enfant pas à pas, qui l'inscrit à plein d'activités. Bon, peut-être que ça s'inscrit plus dans notre époque, et puis bon, ça n'a pas toujours été comme ça, mais quoi dire aux parents qui se disent « ben moi, j'en fais pas assez ».
Bien, je pense que je reviendrai aux dimensions que je vous ai données tantôt. Je pense que l'enfant, là, l'important du parent, c'est de répondre aux besoins de l'enfant. C'est quoi les fonctions du parent? Le nourrir, le protéger, le guider. Hein, contrôler ses comportements pour le protéger. C'est ça qui est... Puis fournir un environnement qui peut permettre l'apprentissage de l'enfant. Ouais. Donc, être sensible aux besoins de l'enfant, l'encadrer. Puis, la dernière dimension que je disais tantôt, l'autodétermination, c'est un peu ça, c'est l'encourager l'autonomie de l'individualité. Ouais. Donc, les parents, en voulant trop structurer, organiser, tu sais, c'est comme de la surstimulation d'une certaine
oui,
façon.
Oui, c'est
fait
ça.
C'est pas nécessaire. L'enfant est capable d'aller chercher ce qu'il a besoin. Oui, il faut qu'il y ait quand même, on sait que des environnements stimulants à la maison, qu'il y ait avoir des livres, avoir du matériel
pour bricoler,
jeu, c'est essentiel. Ouais. Mais outre ça, l'enfant n'a pas besoin d'avoir des activités parascolaires à tous les jours. Là. C'est pas nécessaire. Ouais. Fait que oui, c'est vrai qu'il y a une pression pour les parents, mais je pense que c'est très correct que l'enfant joue. Hein? On a besoin que les enfants ont besoin de périodes libres pour être capables eux-mêmes aussi de s'organiser puis d'être autonome, hein, de ne pas être encadré tout le temps. Fait que oui, vous avez raison qu'on a une pression pour ça, puis on se sent coupable, mais on ne devrait pas.
Oui, c'est ça.
C'est pas le besoin de l'enfant de faire des activités tout le temps.
Puis toujours très structuré. Là, on a parlé énormément du jeu libre, de cette importance-là récemment. On n'avait jamais vraiment entendu parler de ça, peut-être, parce qu'avant, il y a quelques années, c'était plus naturel. On envoyait les enfants jouer dehors, ils s'amusaient ensemble. Maintenant, souvent, on va avoir tendance à structurer, à vouloir animer notre enfant. Et je pense que c'est important de rappeler que c'est pas de pair de le faire.
Absolument. Il faut pas tomber un peu dans... tu sais, quand je parlais de sensibilité, d'encadrement, il faut pas tomber un peu dans l'extrême de la surprotection puis de la surorganisation. L'enfant a besoin de prendre ses décisions, a besoin de faire ses choix, a besoin de créer, d'inventer. Et quand on le structure toujours, des fois, ça peut même créer un peu d'anxiété chez l'enfant. Quand il se retrouve seul, il a de la misère à s'organiser, il est habitué d'être organisé. Fait que oui, le jeu libre, la capacité de soi-même faire ses choix, de décider, être autonome, développer son individualité, bien, ça se fait aussi... quand on donne la place à l'enfant pour le faire au lieu de l'organiser, là, je dirais.
Julie, tout à l'heure, je parlais de la pression, soit la pression sociale, la pression de la famille, des proches. J'entends par là dire « Ah, tu fais ça comme ça, moi je fais ça comme ça, tu lui donnes pas de la nourriture bio, moi oui, tu l'habilles comme ça, bon, etc. » Ça pourrait être n'importe quoi. Je donne des exemples comme ça. Est-ce que les parents... Bon, on est à l'ère où les médias sociaux sont très présents, donc on est très, très connectés, mais souvent on est en silo aussi, on souffre d'une certaine solitude. Est-ce que les parents ont suffisamment de soutien social, sont suffisamment encadrés par peut-être le reste de la famille ou de l'entourage?
Mais c'est une très bonne question. Je pense à votre question, il y a de deux réponses, il y a oui et non. Vous avez raison qu'on est une époque où il y a beaucoup d'informations disponibles. Hein. Il y a beaucoup de les réseaux sociaux, les amis, les professionnels. C'est beaucoup plus accessible, je crois. Mais l'aspect familial, des grands-parents, de la famille élargie, on a des familles moins nombreuses. Hein. Et ça, c'est manquant. Puis je vous dirais, il y a comme un défaut d'avoir trop d'informations puis de trop de partage. C'est comme si à un moment donné, on devient anxieux. On ne sait plus quoi faire parce que en plus, on a plein de conseils... des fois qui sont différents. Hein?
Oui.
Donc, maintenant, on ne se retrouve plus là-dedans. Moi, je pense qu'il faut vraiment se faire confiance. Il faut se dire que le parent est vraiment la meilleure personne qui sait ce que son enfant a besoin. Hein? Il faut retrouver un peu ça parce que, oui, les parents sont isolés. Puis nous, Annette et Grandir, on a fait des sondages auprès des parents, on les a interrogés. Puis, les sources d'information, ils se sentent quand même isolés parfois. Mm-hmm. C'est étrange, hein? Même s'il y a tellement d'informations disponibles. Ils vont pas toujours vers les membres de la famille, tout ça. Il y a comme une façon d'élever les enfants qui est différente d'avant, où on allait beaucoup parler à notre mère, à notre belle-mère. Il y avait cette espèce de transmission-là. Maintenant, c'est différent. Ça veut pas dire que c'est positif d'avoir de l'info aussi. Hein, il y a beaucoup d'informations, il y a des professionnels, il y a des revues, il y a des sites. On est bombardé d'informations. Fait que c'est comme différent, mais je pense que le soutien individuel est peut-être moins là qu'avant. Hein, oui. C'est beaucoup plus anonyme, c'est beaucoup plus large et c'est moins une interaction là, de parent à parent.
Oui.
C'est peut-être ça qui est différent.
Et c'est intéressant que vous souligniez, Julie, que ce flot d'informations-là est positif sur de nombreux aspects, mais parfois peut être plus négatif ou plus lourd à porter. Je m'étais amusée à un moment donné à demander à une mère qui est bon dans la soixantaine, qui a 4 enfants, dans la trentaine, de dire « Toi, c'est quoi les erreurs que tu as fait quand tu as élevé tes enfants? » Et sa réponse avait été formidable parce qu'elle m'avait regardée en réflexion et de me dire « Ben moi, j'en ai pas fait des erreurs. J'ai juste élevé mes enfants. » Et ce flot d'informations-là, parfois, m'amène à penser que c'est ce qui nous amène la culpabilité un petit peu aussi.
Oui, ben je pense qu'on a une société de consommation, une société de performance. Hein? Alors, on veut être performant dans tous les domaines de notre vie, hein? Au travail, dans les loisirs. Et avec nos enfants, il y a beaucoup de pression. Puis je dirais que quand on avait 10-15 enfants, c'était moins pire. Là, quand on en a deux, c'est comme si on ne veut pas manquer notre coup. Fait que, oui, je dirais que quand je vois des jeunes parents, ils sont très anxieux. Ils ont vraiment peur de se tromper, comme s'ils allaient faire des torts irréversibles. Je pense que quand il faut se faire confiance, c'est ça la base. Puis le parent, il a besoin de se sentir valorisé, puis il a besoin de faire ses choix, puis il a besoin aussi de s'ajuster, puis de faire des erreurs. Je pense qu'il n'y a pas de manuel. C'est comme ça qu'on s'ajuste. C'est quand on reste dans les grandes idées d'être sensible, d'être réceptif, aux besoins de notre enfant, puis de s'ajuster, puis avoir quand même un bagage de connaissances, là, de savoir un peu comment ça se développe un enfant, bien, je pense que c'est ça qui est important à la base. Il faut se rappeler ça.
Oui.
C'est pas toutes on n'est pas dans des choses spécifiques. C'est vraiment, hein, un enfant, ça a besoin d'amour, ça a besoin d'attention, ça a besoin d'encadrement. Puis après ça, ça va bien. Là, quand on n'a pas un enfant qui a des difficultés particulières,
oui, je pense déjà. Que... On n'a pas besoin d'un post-doctorant pour élever un enfant.
Non, absolument pas.
En terminant...
Mais les connaissances sont importantes quand même.
Oui. Oui. Et justement, je veux terminer là-dessus parce que c'est important de rappeler que ces connaissances-là sont importantes. Le parent est le premier expert de son enfant et les connaissances qu'il a envers lui vont l'aider justement à devenir encore un meilleur professionnel de son enfant. On fait comment pour bien décortiquer l'information, pour s'abreuver à de bonnes sources?
Oui, bien, c'est sûr que les connaissances, c'est important, comme vous dites, parce que ça nous permet d'adapter nos comportements. Quand on sait ce qui est normal pour un enfant selon l'âge, bien, on est capable de s'adapter puis de bien soutenir l'enfant dans ses enjeux de développement. Là. Par exemple, l'acquisition de la propreté, quand on sait un peu comment ça se passe, puis à quel âge, bien, on se met moins de pression, puis on est capable de l'accompagner dans ce stade de développement-là. C'est sûr que les connaissances, il y a des sources de connaissances, on en a parlé tantôt. Il y a des bonnes, puis il y a des moins bonnes. Je pense qu'il y a des sources validées qui existent. Je ne sais pas si vous voulez que je vous en nomme quelques-unes.
Peut-être une ou deux, oui.
Oui, bien, naître-et-grandir.com, ben oui. Là, je vais parler de ma paroisse, mais c'est un site qui est très intéressant parce que l'information est validée. Parce qu'il y a beaucoup d'informations qui circulent, mais ce n'est pas toujours. Puis il y a des forums de parents, les parents se partagent entre eux, qui est extrêmement intéressant. Mais des fois, hein, on se dit, ah, moi, j'ai essayé ça, puis tout ça, c'est riche, mais c'est pas toujours. Il y a des choses d'infos, il faut en prendre puis en laisser. Fait que Naître et Grandir, c'est une source crédible, validée scientifiquement. Fait qu'on est sûr que l'information qui est là n'est pas improvisée. Là. C'est quelque chose qui a été documenté. Il y a des revues aussi qui sont intéressantes. Il y a Enfants Québec pour les enfants plus vieux, parce que Naître et Grandir, ça va jusqu'à 5 ans. Fait que la période scolaire, on est un petit peu plus démunis. Puis il y a des sites aussi, la Société canadienne de pédiatrie, qui est très intéressante, avec des fiches. Puis des sites même de l'hôpital Sainte-Justine, qui est vraiment un guide info famille sur plein de questions qu'on peut avoir, puis à l'hôpital Montréal pour enfants. Fait que ça, c'est vraiment des sources qu'on peut trouver facilement sur Internet, puis qui peuvent vraiment nous outiller ou nous donner des grandes balises. Après ça, ça va être à nous de prendre ces informations-là. Puis de
la filtrer, finalement.
De la filtrer, puis de les adapter. Hein. Je pense que chaque enfant est unique, puis c'est à nous, c'est là la clé.
À notre réalité.
S'adapter à ce que notre enfant nous demande et nous envoie comme message, comme besoin. C'est cette espèce de, je dirais, d'adaptation-là, de synchronie entre le parent et l'enfant qui est clé là-dedans.
Bien, ce sont de précieux conseils, Julie Brousseau. Merci beaucoup. Je rappelle, vous êtes psychologue spécialisée en développement de l'enfant et collaboratrice au contenu pour Naître et Grandir, naîtreetgrandir.com. On glissera sur le site du Canal M. Un plaisir, Julie Brousseau.
Merci beaucoup.
Au revoir.
Bonne journée. Bye-bye.
Votre quartier a mis en place une initiative pour améliorer le bien-être de ses citoyens? Vous avez adopté de nouvelles habitudes de vie et depuis, vous dormez mieux? Votre handicap ne vous empêche pas de suivre des cours de danse? Marianne veut tout savoir sur la santé. Partagez vos expériences à canalm@buzevoix.com ou par téléphone au 1-800-361-0635, poste 220. Suivez C'est bon pour la santé sur Facebook et Twitter.
Marc Paris, bonjour.
Oui, bonjour Marianne.
Vous êtes directeur général du partenariat pour un Canada sans drogue et là pour nous parler de cette troisième campagne nationale qui a pour thème « Ne laissez pas vos médicaments devenir des drogues de rue ». Et l'an passé, ça vous a quand même permis d'amasser 390 tonnes de médicaments à travers le Canada. C'est pas rien ça, Marc Paris.
Non, je dois vous avouer que ça nous a surpris énormément et depuis deux ans qu'on fait cette campagne-là en partenariat avec Shoppers Drug Mart et Pharmaprix, ça fait 580 tonnes de drogue, de médicaments de toutes sortes qui sont recueillis. On s'attend de voir cette année peut-être dépasser ou atteindre les 500 tonnes dans cette année. La campagne ça va prendre fin à la fin décembre et avec maintenant l'ajout de toutes les pharmacies de la chaîne Loblaws qui s'ajoutent, on croit bien qu'on va dépasser ses objectifs.
Juste pour le plaisir, là, 390 tonnes, et je pense qu'on peut le voir sur votre site web. Oui. C'est combien d'éléphants, ça?
Je ne me souviens plus, moi non plus.
300, me dit Mathieu Tessier à la mise en onde. Parce que sur votre site, il y a un petit tableau assez rigolo qui illustre qu'est-ce que ça peut représenter, 390 tonnes. Et c'est là qu'on se dit à quel point ça a un impact majeur. Et je pense, Marc Paris, que c'est un constat que l'on peut faire. De plus en plus, les Canadiens changent d'attitude par rapport à leurs médicaments, à comment les consommer, à comment s'en débarrasser aussi de façon sécuritaire.
Oui, effectivement. Écoutez, on vient de terminer un sondage national et on s'est rendu compte que plus que jamais, surtout dans la catégorie des antidouleurs, il y avait une augmentation assez importante de foyers qui disaient qu'ils avaient dans leurs armoires à pharmacie des médicaments antidouleurs qui sont les plus prisés par les jeunes et aussi les plus dangereux parce qu'ils peuvent facilement mener à la dépendance.
Oui. Et d'ailleurs, c'est l'un des objectifs de cette campagne, c'est de protéger nos adolescents, hein, de rendre moins accessibles ces médicaments-là qui peuvent devenir des drogues de rue pour eux.
Exactement. Bon, tu vois, il y a plusieurs années, on avait réussi à mettre en place des contenants qui étaient sécuritaires pour les jeunes puis les enfants. Mais notre argument est que c'est pas le cas pour les ados. Ils sont capables. Mm-hmm. Donc, il faut inciter les parents à maintenir leurs médicaments qui sont ce qu'on appelle la catégorie de catégorie abusable dans des endroits sécuritaires, soit dans des endroits barrés ou à rester dans la possession des parents parce que trop souvent, les parents laissent ça un peu partout, sur le comptoir de cuisine ou dans l'armoire de pharmacie, et sans savoir que c'est de la nouvelle source de drogue pour les jeunes.
Oui, et que ça devient peut-être un petit peu trop accessible pour
Bien
eux.
Sûr. Ben oui.
Comment on peut faire le ménage de notre pharmacie de façon appropriée, Marc?
Ben, écoutez, d'abord, on incite les parents à faire le ménage, le grand ménage régulièrement de leurs armoires à pharmacie, tiroirs, n'importe où, et de rapporter tout ce qu'ils ont, où ils l'ont acheté, soit à la pharmacie. Donc, que ce soit des vitamines qui sont expirées, que ce soit des antidouleurs, que ce soit des médicaments d'ordonnance, de quelque sorte. Mm-hmm. Il s'agit de ramener ça où ils peuvent être disposés de façon sécuritaire. Jeter ça dans la toilette ou dans les poubelles, ça va polluer l'environnement et c'est pas ce qu'on recommande. Et malheureusement, il y a à peu près un tiers des foyers, c'est ce qu'ils font. Mais quand même, de l'autre côté, il y a 50% des gens qui nous disent que maintenant, ils rapportent le médicament à la pharmacie. Toute pharmacie, habituellement, va accepter de reprendre ces médicaments-là.
Oui. Ce qui est bien aussi, c'est que ces campagnes nationales-là, c'est le troisième volet là, cette année, ça a permis de sensibiliser les parents et d'après une étude qui a été réalisée, plus le parent est sensibilisé, plus il va être porté à aborder le thème de la consommation de drogue avec son enfant, de l'amener à s'ouvrir, à communiquer avec lui.
Bien, c'est le thème principal de toutes nos campagnes, d'ailleurs, c'est d'inciter les parents à parler avec leurs jeunes. Parce que la recherche qu'on a vue, nous, c'est dans les foyers où il y a des conversations de façon régulière et soutenues avec leurs jeunes pour parler de drogue, pour s'informer de comment les enfants réagissent quand ils se font offrir de la drogue, parce qu'on sait que de plus en plus, les jeunes ont des pressions auprès de leurs pères, que ce soit dans des parties, à l'école, dans la cour d'école, dans la rue, d'expérimenter, de tenter des drogues. Bien, il faut que les parents s'engagent et soient au courant d'abord qu'il y a beaucoup de pression auprès des jeunes et que souvent les jeunes nous disent qu'ils ne savent pas comment dire non. Donc, des stratégies que les parents peuvent avoir avec leurs jeunes, c'est toujours bon parce que, bon, d'abord, les parents vont se mettre au parfum de savoir ce qui se passe dans la vie de leurs jeunes et deuxièmement, les aider avec eux de développer des stratégies pour éviter ces occasions-là.
Oui. D'ailleurs, il y a des sites pour continuer la sensibilisation, pour outiller les parents, canadasansdrogue.org, également sécurisez-vos-médicaments.ca. Marc Paré, 1800 pharmacies de bannière Pharmaprix et l'Oblast à travers le Canada appuient la campagne, mais c'est pas juste Pharmaprix, là, on peut aller n'importe où.
Oui, vous pourriez aller chez Jean Coutu ou quoi que ce soit. Il s'agit que ces partenaires-là sont avec nous depuis le début et éventuellement, mais toutes les chaînes, les grandes chaînes et même certains pharmaciens indépendants acceptent de reprendre ces médicaments et ils sont disposés de façon sécuritaire, soit par des compagnies environnementales accréditées qui vont incinérer toutes ces choses.
Oui. Au fond, il y a juste du bon. Sécurité de nos enfants, sécurité de la planète. Et en même temps, le pharmacien sera là pour nous guider. Moi, ça m'est déjà arrivé de me faire dire par mon pharmacien, « Ah, ben ça, on le prend pas. » Mais du moins, ils sont toujours disposés à nous guider.
Oui.
Je pense qu'il vaut mieux essayer puis tenter d'aller porter nos médicaments.
Puis si un vous dit non, allez dans les grandes chaînes. Il n'y a pas... Habituellement, la politique est très ouverte pour ça. Ils ne sont pas pour vous demander où vous avez acheté nécessairement. Ils vont les reprendre, un point, c'est tout. Et c'est important parce que, comme on dit, même si vous pensez, même par exemple des grands-parents qui pensent que ben, moi, j'ai pas d'enfants, je ne vais pas m'inquiéter, mais vous avez des petits-enfants ou des gens qui ont... des fois, c'est pas votre enfant lui-même, mais c'est l'enfant du voisin qui vient et puis, bon, va utiliser la toilette et puis, bon...
C'est pas ce que l'on souhaite. Voilà. On reste vigilant, Marc Paré. Je rappelle, vous êtes directeur général du partenariat pour un Canada sans drogue. Merci beaucoup de nous avoir parlé aujourd'hui et puis salutations de Montréal à Toronto.
Un grand plaisir, Marianne.
Au revoir.
Bon week-end.
Mathieu Tessier à la mise en onde, Christiane Campagna à la recherche et Marianne Paquette au micro. Un très, très beau week-end à vous. Profitez-en pour vous reposer. Vous le méritez bien. De retour lundi. D'ici là, portez-vous bien. Bye-bye.